Ouellet, en direct.
Avec JC et Patricia.
Attention, please.
Radio X.
Ça se poursuit, l'attaque en Iran, la guerre en Iran. On nous avait dit quoi, on en a pour une semaine. Hold on, gang, ça achève. On est maintenant tout près de la troisième semaine de guerre entre Israël. Je vais les mettre en premier, les États-Unis et l'Iran. Et là, pour une des rares fois, parce que je dois le dire, souvent on reproche à Donald Trump d'avoir l'air d'un broche à foin. Mais là, vraiment, on a l'impression que Donald Trump n'a plus totalement le contrôle de ce qui est en train de se passer. À preuve, cette semaine, un peu plus tôt cette semaine, quand il a fait sa conférence de presse, il a commencé en disant « j'ai besoin d'aide » et 8 minutes plus tard, il est en train de dire « j'ai pas besoin d'aide ». Fait que tout ça, on dirait qu'il réfléchissait à voix haute devant tout le monde. Et ça, c'est pas pour rassurer personne.
Son âge, des fois, je me demande si son âge le rattrape
pas.
Ben,
il commence. Veut pas, il commence à vieillir. Là.
Des fois, t'es 80. Bien correct que voilà un an, puis ça diminue tranquillement parce que tu vieillis, vierge.
Ben, ou il se fait doubler. Tu sais, là, vraiment, mm-hmm. Il a perdu le contrôle. Il a embarqué dans beaucoup de dossiers, beaucoup de militaires depuis les derniers mois et peut-être qu'il est en train de perdre le contrôle. On va voir ce qu'en pense notre chroniqueur, analyste indépendant géopolitique sur la chaîne 7 jours sur Terre, Benjamin Tremblay. Bonjour.
Salut, JC. Merci de me recevoir.
Fait plaisir. Est-ce que Donald Trump va perdre totalement le contrôle parce que là, ça sent bizarre?
Il semble qu'il a pas mal déjà perdu le contrôle. Puis ce qu'essaient de faire les Américains en ce moment, c'est d'essayer justement de le retrouver, de déterminer le tempo. Parce qu'on voit deux choses. Hein. On voit d'un côté un pays qui respecte exactement son plan, sa stratégie, lettre à la lettre depuis le début, ce sont les Iraniens. Leur objectif, c'était de maximiser la pénalité autant que possible, de créer un chaos tellement grave à travers la région puis à travers le monde entier, dans le marché énergétique, dans les marchés boursiers, pour s'assurer de maximiser la dissuasion. La leçon, là, ce qu'essaient de faire les Iraniens en ce moment, c'est de s'assurer que plus jamais un président américain va rien que songer à aller attaquer l'Iran en sachant que c'est tout ça la conséquence, que le détroit d'Hormuz va être bloqué, que ça va être un bordel énergétique. Fait que là-dessus, les Iraniens, ils ont deux ou trois objectifs stratégique très clair. Un, survivre. Deux, empêcher un soulèvement populaire, fragmentation ou encore une manifestation majeure. Puis finalement, bien, tout simplement de maximiser la punition. Du côté des États-Unis, ils ont échoué sur tous leurs objectifs stratégiques sans exception. Premièrement, protéger les pays du Golfe. C'est une catastrophe, ouais. C'est un échec sur toute la ligne. Ensuite, ça, c'est des alliés, là. Ensuite, garantir la stabilité des marchés énergétiques. C'est une catastrophe sur toute la ligne. Garantir la navigabilité du détroit d'Hormuz puis sa sécurité en temps de guerre, c'est une catastrophe sur toute la ligne. Puis encore plus que ça, de communiquer clairement le plan à tout le monde pour éviter justement que ça se dégénère comme ça en crise boursière puis énergétique. Ça aussi, c'est une erreur catastrophique du côté des Américains. Fait que là, ce qu'on voit, c'est que oui, les Américains sont en train de gagner au sens militaire du terme. On rosse complètement les Iraniens. Là, on a détruit la force aérienne, détruit la marine. On a tué des éléments importants du régime. On est en train de frapper l'infrastructure civile, militaire, pétrolière, économique. On fait extrêmement mal aux Iraniens. Mais au sens stratégique de la guerre, c'est les Iraniens qui sont en train de gagner.
Oui. Puis, tu viens de parler du détroit d'Hormuz. Tu sais, ça, c'est un exemple flagrant où on essaie de rattraper le contrôle, de reprendre. Parce que là, plus tôt cette semaine, Donald Trump disait, bon, j'ai des alliés, entre guillemets, qui me disent qu'ils s'en mêleront pas, puis vous ne nous servez à rien, etc. Et effectivement, il y avait à peu près juste la France qui avait commencé peut-être à envoyer un porte-avions, qui avait semi-levé la main un peu, puis dit, ouais, on pourrait être là. D'ailleurs, il avait donné 8 sur 10, parce qu'il ne pouvait pas donner à perfection. Ouais. Passer des Français, tu sais, en riant d'eux autres, en faisant une joke sur la France. Et là, ce matin, on apprend que, bon, 6 pays seraient prêts à contribuer. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il y a eu une menace de quitter l'OTAN? Parce que le boss de l'OTAN, M. Root, a également s'est exprimé hier en disant, bon, écoutez, c'est nos alliés, on n'aura peut-être pas le choix. Et là, soudainement, tu as 6 pays, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Japon, qui ont dit, bon, on pourrait contribuer, on pourrait envoyer des navires pour sécuriser le détroit d'Hormuz. Ouais. Est-ce qu'il y a eu une menace de quitter l'OTAN?
Il y a quelques éléments à considérer. Premièrement, oui, il y a eu une menace de quitter l'OTAN. Elle est très explicite, puis elle est là depuis très longtemps. Puis là, les Alliés comprenaient que ce qu'ils étaient en train de faire, c'était une erreur tactique incroyable dans négociation puis dans discussion sur l'OTAN avec Trump, parce qu'il n'arrête pas de dire à tout le monde, c'est une rue à sens unique. Nos Alliés ne viendront jamais nous aider si on a besoin d'eux autres. Là, ils ont donné raison. Maintenant, il y a une nuance quand même à apporter. C'est, premièrement, les Alliés ne voulaient pas nécessairement faire un pied de nez aux États-Unis. Ils n'étaient pas en train de dire, on ne veut pas vous aider parce que vous êtes des cabochons. Ils étaient en train de dire, on ne voit pas le plan crédible que vous êtes en train de nous présenter en ce moment. Vous demandez à nos forces armées d'aller se placer essentiellement dans un feu croisé sans véritablement de stratégie ou de tactique sur comment on va rouvrir le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas une question de navire. Là. Soyons très clairs. Là. On parle d'à peu près des centaines de navires qui sont actuellement bloqués de part et d'autre du détroit d'Ormuz. C'est un peu l'équivalent de dire on va faire des escortes. Ce serait l'équivalent de dire on va remplir le Grand Canyon à cuillère.
Ouais.
En théorie, t'es capable. Tu vas en venir à bout un jour, mais c'est pas pratique, c'est pas réaliste. Fait que les Alliés, on a présenté ça un peu comme si tout le monde se tenait contre les Américains. C'était pas tellement ça. Maintenant, là, on voit la position, si on veut se nuancer, alors que plusieurs nous disent on est prêt à y aller une fois que les combats seront terminés. Ouais. Alors ça, c'est à peu près... Ben là, c'est ça, on est en train d'essayer de sauver la face dans le fond. Puis ce que fait Trump ce matin, c'est très clair, là, c'est qu'on est en train de paniquer puis essaie de stabiliser les marchés, de rassurer tout le monde, à faire croire qu'il y a une mission qui s'en vient, là, puis ça achève, puis ça sera pas long. Alors que ce qu'on entend en coulisses, c'est que les États-Unis essaient de trouver une rampe de sortie avec l'Iran, de commencer des négociations par des tiers parties, notamment l'Oman, le Qatar, etc. Et les Iraniens ne veulent rien savoir. Ne veulent rien savoir de lancer des négociations. Donc là, tu vois Trump qui essaye de convaincre tout le monde que ce ne sera pas trop long, ça achève, mais on n'a absolument aucune visibilité sur ce qui s'en vient. Là, la prochaine étape, je te le dis, c'est les Iraniens qui vont aller saisir l'île de Kharg directement pour essayer de le négocier, utilisant un jeton de négociation avec l'Iran, puis dire « Garde, tu m'as mis un gun sur la tempe avec le blocage d'Ormuz. Moi, je vais te mettre un gun sur la tempe avec la prise de Kharg. » Kharg exporte à peu près 90 % du pétrole iranien.
Peut-être expliquer, Kharg, c'est une petite île au nord de la baie. C'est des installations pétrolières là,
c'est
à grandeur.
C'est un énorme terminal pétrolier. C'est un peu comme si on avait transformé, l'île d'Anticosti ou les îles de la Madeleine. On avait pris une dans la gang puis on avait transformé ça en terminal pétrolier géant pour la simple et bonne raison que la côte iranienne, les eaux ne sont pas assez profondes pour accommoder des opérations de chargement d'hydrocarbures, pétrole, gaz naturel. Fait qu'on va... regarder ici à Lévis, d'ailleurs, les bateaux qui viennent se charger ont un long jeté pour être capable de rester très profond dans l'eau. C'est quand même une dimension super importante. Donc, les Iraniens ont concentré toute leur exportation sur une petite île que là, actuellement, la discussion, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y en a plusieurs qui vont vous dire, là, je les entends déjà actuellement qui nous écoutent, qui disent bombardez tout ça, détruisez tout ça, qu'on en finisse avec l'Iran, puis ça va faire très mal de perdre sa capacité d'exportation. Absolument. Mais là, le problème, c'est qu'il va... Si on se fie aux Américains, si on prend ce qu'ils nous disent au mot, ils veulent remplacer le régime.
Ouais.
Il y a quelqu'un, un jour, qui va devoir prendre la place de ce régime-là. Et même si tu n'es pas capable de renverser le régime, il y a aussi une autre question très claire. Là. Tu vois, aujourd'hui, les Américains sont en train, littéralement, puis ça, c'est lunaire. Là. Je ne m'attendais pas à avoir des nouvelles comme ça. On est vraiment dans une simulation. JC, ça ne peut pas être plus clair. Les Américains, un matin, nous annoncent qu'ils lèvent les sanctions sur le pétrole iranien.
Ouais.
Parce que tu as 140 millions de barils de pétrole qui sont sur les océans du monde, dans le processus d'exportation, et qui sont en théorie sanctionnés. Puis là, les États-Unis voient bien qu'il manque de pétrole sur le marché. Ils paniquent et ils disent « OK, bon, ben là, l'Iran est rendu qu'il a le droit de vendre son pétrole sans sanction pour essayer de renflouer le marché alors qu'on est en guerre avec l'Iran. » Fait que tu comprends qu'au-delà de juste la question de savoir est-ce qu'il va y avoir quelqu'un d'autre qui va prendre la place, même si c'est le régime iranien qui revient, les Américains, la planète au complet, ne peut pas se passer de la contribution iranienne dans le marché énergétique. Ça a beau pas être pour nous autres qui le consomment. Si demain matin, la Chine perd Écoute, la Chine consomme 90 % du pétrole exporté par l'Iran. Si demain matin, tu fermes la contribution puis tu fermes le robinet, c'est pas la Chine qui s'effondre. La Chine va juste acheter ailleurs sur le marché et monter les prix encore plus. Non. Fait que là, ce que les Américains veulent éviter, c'est en attaquant CARG ou en détruisant l'infrastructure pétrolière, ce serait une hausse prolongée. Là, une situation où tu aurais des prix de pétrole sur le baril considérablement plus élevés, pas pendant des semaines ou des mois, mais pendant des années. Et là, ce matin, si je prends une minute pour te parler de ça, parce que c'est vraiment spectaculaire ce qui vient de se passer ce matin, alors qu'on se parle de tout ça, que les États-Unis essaient de jouer leur carte pour surtout ne pas trop détruire l'industrie pétro-gazière en Iran au cas où on en aura besoin au lendemain de la guerre. On se dit, on veut éviter tout ça. Les Israéliens, eux autres, de leur côté, n'arrêtent pas de pionner l'industrie pétrolière iranienne. Puis on parle, oui, des exportations, mais aussi même de la consommation à l'intérieur. Hier, les Israéliens ont frappé une installation de compression de GNL, essentiellement. On fait la conversion du gaz en gaz naturel liquéfié, une installation de liquéfaction. Et ce gaz-là est utilisé seulement en Iran. Il n'y a aucune exportation de gaz naturel de l'Iran. Fait que là, les Israéliens, en allant frapper ça, ont frappé la capacité de l'Iran à s'alimenter lui-même, à tenir les lumières ouvertes, essentiellement. La réponse de l'Iran, ça a été quoi? Ils se sont retournés de bord, ils ont bombardé le champ de gaz naturel le plus productif de la planète, qui est en fait partagé entre l'Iran et le Qatar. Si vous regardez une carte, vous allez voir, il y a le golfe entre les deux. Bien, dans le milieu du golfe, les deux se partagent un gisement de gaz naturel qui est extrêmement productif. Et le Qatar est le plus gros exportateur au monde. Et là, t'en veux-tu une bonne? En vengeance, ce matin, les Iraniens ont attaqué les installations au Qatar. Le Qatar vient de perdre. La nouvelle là, est parue dans certains journaux de référence. C'est 17 % de la capacité de production du Qatar qui est perdue pour, dis un chiffre, de 3 à 5 ans.
Et...
Ah non, c'est une catastrophe, là. Et là, tu vas voir, allez voir le Truth Social de Donald Trump ce matin, qui se plaignait et qui attaquait Israël. Trump est en train de perdre patience avec Israël. Où là, il disait, Israël a attaqué out of anger, en colère. Ils ont attaqué de manière violente l'installation au Qatar, blablabla. Et là, t'as Trump qui dit sur Truth Social, on n'était pas d'accord avec
ça. Pas courant.
Ça n'arrivera plus à partir de maintenant, Israël. Fait que là, tu vois clairement ce qui est en train de se passer.
Ben,
pendant que les Américains cherchent une porte de sortie, Israël ne veut rien savoir d'un cessez-le-feu, puis ils font tout pour tuer les négociations et s'assurer qu'au contraire, le conflit escalade. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est que les Américains soient dans un enlisement. Ils veulent que les Américains envoient des troupes sur le terrain. Ils veulent que l'Iran soit fragmenté, détruit, que la région parte en couille pendant 15 ans. C'est un intérêt qui est fondamentalement positif pour les Israéliens. Si tu regardes pour les Américains, c'est l'inverse. C'est pour ça qu'on entend depuis quelques jours, là, les intérêts des deux divergent. Les États-Unis, ce qu'ils veulent dans le Moyen-Orient, c'est la stabilité. Ils veulent avoir des marchés énergétiques prévisibles, fiables, qui vont alimenter la planète à des taux abordables. De l'autre côté, les Israéliens, qu'est-ce qu'ils veulent dans le Moyen-Orient? Le chaos le plus total. Parce que quand la Libye est faible, quand l'Irak est faible, quand l'Iran est faible, quand l'Arabie saoudite est faible, quand les pays du Golfe sont vulnérables, Israël est fort et dominant. Fait que là, ce qu'on voit, c'est carrément Israël qui est en train d'essayer de virer la région en bordel pour ses propres intérêts, alors que les Américains sont à la remorque en arrière, impuissants devant cette scène. Il y a quelque chose de spectaculaire là-dedans.
Ben, et il y a une possibilité, il y a un risque que tous les alliés, incluant Israël, se retournent finalement contre les Américains. Là, les Américains pataugent. Quand les attaques et la distorsion viennent de l'extérieur, c'est une chose. À la limite, Trump va les prendre de front, comme tu viens de dire. Il s'est pas gêné. Israël a fait ci, a fait ça. Ou il va ridiculiser, il va rire d'eux autres. Il a ses façons de faire. Mais quand ça vient de l'interne, c'est encore une coche de plus. Parce que là, je veux t'amener sur le dossier de Joe Kent. Joe Kent, qui était le chef du contre-terrorisme américain, qui a démissionné et qui l'a... est parti en cavale, fait des déclarations médiatiques, a donné une longue entrevue à Tucker Carlson sur sa chaîne YouTube et il crie à qui veut l'entendre que l'Iran n'était pas du tout une menace, que l'Iran... Puis là, le gars est bien placé, il est au centre du contre-terrorisme, il avait le nez dedans. Il dit, il n'y a aucun scénario où l'Iran était une menace directe et préoccupante pour un avenir rapproché. Ça, ça fait mal. Ça, ça commence à varger. Et là, il y a des gens qui supportent Trump depuis le début même de son premier mandat qui commencent à décrocher. Et ça, pour Trump, les mi-mandats s'en viennent. Là, les attaques viennent de l'intérieur. Ça va pas du tout, là.
Puis moi, j'ai l'impression que ce qui s'en vient ou ce qui est une possibilité de plus en plus réaliste à mesure où Trump se retrouve au pied du mur, sans véritable porte de sortie, obligé de suivre l'agenda d'Israël, puis là, t'as des élections qui s'en viennent. Bref, ça regarde extrêmement mal. Et j'imagine de plus en plus, et là, j'imagine, on spécule, un scénario dans lequel Trump pourrait se retourner contre Israël. Puis je sais, en passant, je suis au courant de l'influence israélienne sur la politique américaine, je suis tout à fait au courant de l'influence israélienne spécifiquement sur Trump.
Ouais.
Je suis au courant de tout ça. Mais il faut garder en tête, Trump veut d'abord et avant tout sauver sa peau, veut d'abord et avant tout sauver la face. Il a déjà été en conflit avec Israël. C'est pas les prérogatives politiques ou les considérations politiques qui l'arrêtent là-dessus. Il a déjà insulté Netanyahou. Il a déjà été en guerre ouverte avec Netanyahou pendant toute la présidence Biden, qui les deux, ils étaient pas capables de se sentir. Il y a un scénario là, de plus en plus réaliste dans lequel Trump lance Israël en dessous de l'autobus en se tournant puis en disant « On m'a mal informé. C'est pas de ma faute. On m'a donné des fausses informations. Israël m'a menti. On nous a dit que ça allait être court. Ils n'ont pas suivi leur agenda. On leur a interdit de faire des actions perturbatrices sur justement l'industrie pétrolière, etc. C'est eux autres qui ont été en cette direction-là. C'est eux qui ont escaladé le conflit. » Puis Trump, ben c'est bien triste à dire, mais c'est un des présidents américains qui aurait la marge de manœuvre politique pour faire ça. Parce qu'actuellement, d'abord, Trump a l'habitude de flotter un peu par-dessus les consensus établis à Washington. Il est capable de briser tout ça puis briser ses tabous. Mais encore plus, tu le vois comme moi, là, la moitié de la droite américaine dit déjà ça. Puis c'est pour ça que je te parle de tout ça. Tu vois Joe Kent, tu vois Tucker Carlson, tu vois Megyn Kelly, tu vois vraiment l'essentiel. L'essentiel du mouvement MAGA qui est en train de traverser le Rubicon puis de dire à Trump « Non, à partir de maintenant, on est des opposants, on n'embarque pas là-dedans parce que, justement, Israël nous a embarqués dans une guerre. » Fait que ce narratif-là, il est déjà populaire à droite. Il permettrait déjà à Trump de l'épouser, si on veut, et de sortir du quagmire pathétique dans lequel il se trouve actuellement. Maintenant, oui, les conséquences politiques seraient l'enfer. Ce serait la moitié du parti serait avec Trump, l'autre moitié serait contre lui, puis dirait qu'il est anti-Israël et qu'il a trahi un allié, etc. Mais il ne faut pas exclure un scénario dans lequel Trump dit « Vous savez quoi? Ça fait 80 ans là, qu'on essaye de contenir l'influence israélienne. Tous les présidents américains ont essayé avant moi. Il n'y a jamais personne qui a réussi. Tout le monde a essayé de contenir l'influence de Netanyahou. Je suis le premier à être capable d'y dire non. » Fait que je ne vous dis pas que c'est ce qui va se passer, là, mais plus ça va, plus on a un scénario réaliste dans lequel Trump pourrait briser les liens avec Israël, des liens qui sont d'abord et avant tout politiques et électoraux. À partir du moment que Trump comprend que c'est son dernier mandat puis que ce qu'il veut, c'est sauver sa dynastie beaucoup plus que ses chances de réélection, les intérêts commencent à se transformer, là.
En tout cas, c'est pas positif, mais c'est fascinant. On va continuer de suivre ça. Merci, Benjamin, de prendre le temps de jaser avec nous. On va se parler la semaine prochaine.
Merci, bye-bye.
Salut, bye. Benjamin Tremblay, si vous en voulez plus, bien évidemment, vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube 7 jours sur Terre. Oui, madame.
Juste te dire, je suis en train d'écouter avec sous-titres, là, c'est parce que le podcast de...
Oui, il est sorti.
Il est sorti officiellement, là, donc Pierre Poilievre à Joe Rogan. Juste te dire que sur YouTube, actuellement, là, il y a... YouTube, ça a été mis en ligne, il y a quoi, une trentaine de minutes, OK? Il y a déjà 30 minutes, mais je sais, c'est des millions de vues, mais YouTube, là, je ne suis pas sur Spotify. C'est 76 000 visionnements.
Wow! Mais c'est Joe Rogan. C'est le gars.
Il y a 20,8 millions d'abonnés juste sur YouTube.
Incroyable.
Fait que je veux dire, c'est inimaginable.
Moi, c'est drôle, là, je regardais l'analyse de nos chroniqueurs québécois, tu sais, puis je sais pas pourquoi il est allé là. Ben si vous me dites ça à télé, sérieusement, là, je sais pas ce que vous faites là. T'sais, sérieux, vous n'êtes pas plugué dans le monde. Là. Si pour vous, Joe Rogan, c'est pas. C'est comme bon. Je ne sais pas pourquoi il est allé là. Ben, vous êtes dans le champ.
C'est parce que le podcast, vous écoutez non seulement aux States.
C'est la planète.
Mais au Canada.
Au Canada. C'est la planète. Partout. Voilà. Oh là là. En passant, puis tant qu'à être dans la chronique américaine, là, le Pentagone, Pete Hegseth, donc le chef des armées, vient de demander au Congrès américain une allonge d'argent. Bon, un petit montant, là, 200 milliards.
Ça va bien.
Hey, ça va bien. Oh, on revient.
Ouellet, en direct.
En direct. On revient dans pas long.
Radio X.